Donc bonjour à toutes et à tous, et je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir donc à cette nouvelle webconférence de Jury Travail qui est à destination des chefs d'entreprise, des RH, des représentants syndicaux et des élus de CSE. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous puisqu'il s'agit du temps de travail. Donc avant d'entamer cette webconférence, juste quelques mots pour vous présenter Jury Travail, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc Jury Travail est le leader de l'informatique juridique en ligne. C'est tout d'abord un très grand nombre d'articles sur l'actualité juridique, mais c'est surtout un abonnement qui vous donne accès à une base documentaire juridique rédigée dans un langage clair. Cet abonnement vous donne également accès à de nombreux modèles de lettres, de courriers, de contrats ou même d'accords qui vous feront gagner un temps précieux. Et enfin, cet abonnement vous donne également accès à notre équipe de juristes qui est basée à La Rochelle et qui répondent à toutes vos questions par téléphone. D'ailleurs, à la fin de cette webconférence, nous vous communiquerons un lien qui vous permettra de tester gratuitement notre service en posant votre première question directement à nos juristes. Alors, Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Françoise Félicie, avocate au barreau de Paris, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Donc, bonjour à vous, Maître, et merci d'être parmi nous.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Vous communique également, comme d'habitude, les coordonnées de Maître Félicie. Si vous avez besoin du moindre conseil juridique, n'hésitez pas à la contacter. D'habitude, nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence afin de vous permettre de poser toutes vos questions. Nous les avons transmises à notre invité qui va y répondre donc au cours de la conférence. Alors, nous avons prévu 45 minutes. Nous allons essayer de nous y tenir, même si le sujet est vaste. Et comme d'habitude, et pour anticiper un petit peu une question que vous allez sans doute poser. Un replay de cette webconférence vous sera envoyé par email. Donc, vous recevrez la vidéo quelques jours après cette webconférence. Alors, si vous voulez poser des questions au cours de la webconférence, je vous invite à les poser dans l'onglet « Questions » qui est à droite de l'écran. Vous avez bien trouvé l'onglet « Chat », donc l'onglet « Questions » est juste à côté. Donc, n'hésitez pas. Et je remercie donc vivement ma collègue Marine qui est chargée de vous répondre au cours de cette webconférence en vous orientant vers certains de nos dossiers ou de nos actualités. Alors, toutes les questions que vous nous avez envoyées ont été regroupées dans trois thèmes différents. Donc, d'abord, le temps de travail, ce que nous dit le Code du travail. Ensuite, les aménagements du temps de travail qui sont possibles. Et enfin, donc, la négociation d'accords d'aménagement du temps de travail. Donc, nous allons commencer par notre première partie et avec une question qui nous a été posée à de nombreuses reprises. Pouvez-vous nous rappeler, Maître, ce qui est considéré comme du temps de travail effectif ?
Oui. Alors, le temps de travail effectif, je vais vous donner la définition que donne le Code du travail et vous donner quelques exemples parce que ça sera un peu plus parlant. Donc, le temps de travail effectif, en fait, ça désigne le temps pendant lequel le salarié est à la libre disposition de son employeur et qu'il suit ses directives et qu'il ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles. C'est la définition à retenir. Alors, pour être plus précise, ce qui constitue du temps de travail effectif, ça va être par exemple le temps de préparation quand on arrive sur son lieu de travail, le temps d'habillage et de déshabillage. Ça, c'est du temps de travail effectif. Effectivement, c'est le temps qu'on travaille effectivement, donc on réalise une prestation pour l'employeur. C'est le temps de déplacement à l'intérieur de la journée de travail pour le compte de l'employeur. En revanche, ce qui ne correspondra jamais à du temps de travail effectif, ça va être l'astreinte, en tant que tel, mais on y reviendra. Le trajet du matin, quand on quitte son domicile et qu'on va sur son lieu de travail, ça, c'est pas du temps de travail effectif. La pause et le repos, ça l'est pas non plus. Et le temps de restauration, lorsque le salarié il a le droit d'aller de sortir et d'aller manger où il veut. Ça, c'est pas du temps de travail effectif. Voilà.
D'accord, très bien. Alors, une autre question qui nous a été posée plusieurs fois concerne donc les déplacements professionnels. Dans ce cas-là, est-ce que le temps de trajet est à considérer comme du temps de travail effectif ?
Alors là, du coup, ça me permet de faire le lien avec ce que je viens de vous dire. Le déplacement du matin, non. Enfin, en tout cas, en droit français, entre le matin quand on part de chez soi, qu'on va sur son lieu de travail, non, ce n'est pas du temps de travail effectif. Le soir non plus, ça, c'est le droit français. Le droit européen considère que tout est du temps de travail effectif, hein, mais pas chez nous. En revanche, entre les deux, c'est-à-dire que si je travaille, par exemple, dans un secteur où je dois me rendre chez un certain nombre de clients, eh bien là, tous les déplacements qui sont compris dans ma journée de travail et qui surtout sont faits pour le compte de l'employeur et pour exécuter ma mission, ça, ce temps de déplacement-là, il est payé parce que c'est du temps de travail effectif. Donc, par exemple, les commerciaux, quand ils vont visiter les clients, c'est du déplacement professionnel dans le cadre de son activité, ce pourquoi on est engagé. Donc, c'est du temps de travail effectif, c'est payé. Si vous allez sur un salon, c'est pareil. Si vous prenez le train, l'avion pour vous y rendre, tout ça, c'est du temps de travail effectif, donc ça doit être payé.
Très bien, merci beaucoup. Et je sais qu'il y a pas mal d'inscrits qui viennent du milieu médical. C'est pareil pour les infirmières ou les aides-soignantes qui se déplacent à domicile. Exactement. Tout déplacement entre chaque patient est considéré comme du temps de travail effectif.
Voilà. Après, les conventions collectives parfois prennent certains arrangements avec ça, mais en tout cas, la loi et la jurisprudence sont venues recadrer dans le secteur en indiquant que les déplacements entre deux patients, en tout cas pour le service à la personne notamment, c'est du temps de travail effectif qui doit être rémunéré.
Alors, il y a une petite question que nous a envoyée Anissa qui demande pourquoi le droit européen ne prévaut pas sur le droit français, en fait.
On essaye de le faire prévaloir sur certaines dispositions quand ça nous arrange, c'est-à-dire pour les déplacements professionnels des commerciaux, par exemple. On va considérer que le droit européen s'applique. Mais en réalité, c'est le droit franco-français jusqu'à présent qui s'applique.
Et alors, Doriane, ne vous inquiétez pas, on parlera des temps de pause un petit peu plus tard. Maintenant, donc, venons-en aussi vraiment au Code du travail français qui fixe une durée maximale du travail par jour et par semaine. Quelle est cette durée de travail maximale qui est fixée et quelle est la durée normale, entre guillemets, quoi.
La durée normale depuis qu'on est passé aux 35 heures par les lois Aubry, donc c'est-à-dire en 98, on est à 7 heures, puisque si on fait 7 fois 5 jours, ça fait 35. Donc ça, c'est la journée dite normale et habituelle qu'on peut retrouver. Mais le Code du travail nous fixe quand même une durée max. Donc la durée maximum par jour, c'est 10 heures. La durée maximum par semaine, c'est 48 heures. Donc ça, c'est les deux durées à retenir. Après, il y a des exceptions. On peut passer à 12 heures par jour à condition d'obtenir… D'abord, il faut que ce soit des cas d'urgence très exceptionnels, il faut qu'on ait une activité accrue, on est vraiment dans du très, très exceptionnel. Et là, il faut l'accord de l'inspection du travail. Donc, il faut le prévoir en amont, puisque s'il faut l'accord de l'inspection du travail, il faut avoir le temps de le prévenir et de lui demander. Et l'autre exception à la semaine maximum, c'est 48, et on peut aller jusqu'à 60, mais là encore, il faut qu'on soit dans des circonstances exceptionnel. Par exemple, on est dans un secteur qui intervient pour la défense, l'armée, pour l'État, et on a besoin à un moment d'aller plus loin. Et là, pareil, il faut demander l'accord du CSE et il faut demander l'autorisation à l'inspection du travail. Donc ça, c'est les circonstances exceptionnelles.
D'accord, mais effectivement, il ne faut pas être trop dans l'urgence parce que l'accord du CSE et de l'inspection du travail, ça prend plusieurs jours, oui. Alors, toujours une petite question qui nous a été envoyée et ça nous avait été envoyé aussi, un cas un peu similaire nous avait été envoyé aussi par email avant. Donc, David nous dit qu'il part pour un stage, donc j'imagine professionnel, à Barcelone. Son départ est le dimanche soir. Le dimanche, doit-il être rémunéré ?
Bah, c'est difficile de répondre oui ou non comme ça, parce que chaque cas est particulier en fonction de la situation contractuelle et conventionnelle. Ça dépend de ce que prévoit son contrat, ça dépend de ce que prévoient les usages, la convention collective, la convention d'entreprise et de branche. Je vous dirais, mon cœur vous dirait, en se basant sur le code du travail, oui, puisque c'est un déplacement qui ne fait pas pour lui, mais pour son travail. Donc, ça doit être rémunéré. Après, dans les détails, il y a toujours quelque chose qui se cache dans les détails. Hein, et quand on est juriste, il faut qu'on voit les détails.
Tout à fait. Merci beaucoup. Le nombre d'heures supplémentaires est donc lui aussi plafonné. Pouvez-vous nous rappeler, en fait, le volant d'heures supplémentaires qui est autorisé par le Code du travail?
Alors, un point quand même important, c'est que les heures supplémentaires, elles doivent toujours être commandées, demandées par l'employeur. Ensuite, on a un volume qui est de 220 heures à l'année. Donc ça, c'est le volume réglementaire. Il y a des conventions collectives qui peuvent prévoir un autre volume, mais il faut retenir 220 heures par salarié et par an.
D'accord. Donc, c'est le nombre à ne pas dépasser.
Exactement.
Alors, une autre question, alors très très précise, qui nous a été envoyée. Peut-on demander à des salariés d'effectuer 56 heures de travail en une semaine? Donc, on a bien vu qu'on était au-delà du plafond prévu par le Code du travail, et leur accorder la semaine suivante en récupération tout en leur accordant une prime de 400 euros.
Si on reste dans le droit commun, je vous dirais non, parce que premièrement, comme je viens de vous le dire, la durée maximum, c'est 48 ou 60 circonstances exceptionnelles. Donc déjà, si on fait 56, on n'est pas dans les clous. Et deuxièmement, les heures supplémentaires, elles sont payées avec une majoration. Donc il faut vraiment faire attention à ce point. Non seulement elles doivent être majorées, mais surtout, il faut que ça figure sur le bulletin de salaire, heures supplémentaires avec le taux de majoration, qui est légalement 25% les 8 premières et 50% les suivantes. Si vous pensez que vous pouvez ne pas payer les heures supplémentaires avec cette phrase « heures supplémentaires majorées », mais qu'à la place, vous versez une prime, là en l'occurrence 400 euros, eh bien vous risquez de payer deux fois, parce que votre salarié, il peut très bien dire « cette prime, elle correspond à autre chose, elle ne correspond pas à mes heures sup. » Donc moi, je demande le paiement des heures sup. Et deuxièmement, si vous avez l'inspection du travail qui regarde vos bulletins de salaire, s'il y a des heures sup dont il a eu connaissance et qui va regarder le bulletin de salaire correspondant au mois où elles ont été faites, il va dire « ah ben moi, votre prime, moi je ne considère pas que c'est du paiement d'heures supplémentaires ». Donc la réponse est non, pas 56 heures dans la semaine et encore moins payer une prime pour rémunérer les heures supplémentaires.
D'accord, très bien. Alors, donc nous avons déjà eu une question sur le temps de pause et c'est le moment d'y arriver. Donc là aussi, le Code du travail fixe un petit peu les choses. Quelles sont les obligations à respecter en termes de temps de pause journalier et temps de repos hebdomadaire? Alors, les pauses déjeuner, vous l'avez abordé, sont-elles rémunérées? Ou pas. Mettons un déjeuner professionnel, par exemple, peut-il être rémunéré? Comment organiser également les astreintes?
Alors, les pauses, on a tous le droit, le Code du travail accorde une pause de 20 minutes au bout de 6 heures de travail effectif. Donc ça, après, l'employeur, il peut aussi décider que cette pause de 20 minutes, elle pourra être couplée avec une pause un peu plus longue, voilà. Mais sachez que c'est au bout de 6 heures, on a le droit à 20 minutes. Ensuite, on a tous le droit à un repos quotidien de 11 heures. Et on a tous le droit à un repos hebdomadaire qui est donc de une journée, donc 24 heures plus les fameuses 11 heures, ça fait 36 heures. Le repos hebdomadaire en France, on a tendance à le donner le dimanche, puisque le dimanche a été érigé comme le repos dominical. Mais il y a certaines professions, certaines branches d'activité où on peut déroger à ce repos dominical parce que c'est prévu par les textes, c'est prévu par un décret, c'est prévu par la convention, il y a des autorisations spéciales. La pause déjeuner, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas rémunérée puisque c'est du temps pendant lequel le salarié il peut vaquer à ses obligations. C'est-à-dire, j'entends par là, il peut sortir de l'entreprise, aller se balader au parc, pas déjeuner s'il veut, aller s'acheter un sandwich. Ça, c'est son temps pour lui, donc ce n'est pas rémunéré. En revanche, si l'employeur lui dit « vous devez manger là à titre professionnel », ah ben là, on est dans une configuration d'un lien de subordination qui se retrouve en pleine activité, et donc ça sera rémunéré.
D'accord, très bien. Et concernant donc les astreintes, comment on peut les mettre en place et les organiser ?
Les astreintes, c'est déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas du temps de travail effectif, c'est du temps pendant lequel le salarié il peut vaquer à ses obligations quand même, mais il doit être là pour répondre à des demandes. C'est organisé par la loi et surtout par chaque convention collective. Avec, donc, ça doit être prévu dans un accord de branche ou un accord d'entreprise. Ça doit être rappelé dans le contrat de travail. On doit expliquer dans quel cas on fait des astreintes, quelles sont les astreintes, ce sont des astreintes administratives ou autre chose, et comment elles sont compensées, puisqu'elles sont compensées, les astreintes. Elles sont compensées par une indemnité, une astreinte. Et si pendant l'astreinte, on a l'obligation de travailler, par exemple, je fais une astreinte téléphonique chez moi, il ne se passe rien, j'ai une indemnité d'astreinte, mais tout d'un coup, quelqu'un m'appelle et me dit « il faut aller sur le lieu de travail parce qu'il se passe quelque chose ben », ça correspond à une intervention. Et cette intervention-là, c'est du temps de travail effectif. Donc, il faut, pour résumer, prévoir dans un accord de branche ou un accord d'entreprise et surtout tout prévoir dans le contrat de travail.
D'accord, très, très bien. Donc, ça fait l'objet de négociations à ce sujet-là. Alors, vous l'avez déjà mentionné un petit peu et vous avez parlé à plusieurs reprises d'accords de branche. Donc, les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions beaucoup plus avantageuses que le Code du travail, notamment en matière de repos journalier ou de temps de pause. Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?
En matière de repos journalier, je sais que la convention collective FEAP, c'est une convention qui concerne le médico-social, elle a des dispositions vraiment très spécifiques puisqu'on ne travaille plus sur la semaine mais sur la quinzaine et du coup on a des repos qui sont calculés un peu différemment. Dans l'animation également, on est sur un peu du dérogatoire puisqu'on va calculer des temps de pause un peu différents. Les particuliers employeurs aussi, c'est des conventions qui sont très spécifiques. Voilà. Après, il y a tellement de conventions collectives qui correspondent au domaine d'activité que je n'ai pas recensé toutes les spécificités, mais celles-ci, c'est celles qui me viennent vraiment à l'esprit.
D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques questions qui sont arrivées encore. Donc, il y a des questions sur les forfaits jours, on y viendra un petit peu plus tard. Donc, ça, je passe. Ensuite, les heures supplémentaires payées comptent-elles dans le décompte du contingent annuel ? Bien évidemment que oui. C'est pas parce qu'elles sont… Enfin, le nombre d'heures supplémentaires est plafonné par le Code du travail, comme l'a dit Maître Félicie tout à l'heure. Et donc, oui, il faut bien en prendre, enfin, en tenir compte dans le contingent annuel. Alors, passons maintenant aux différents aménagements possibles du temps du travail. Quelles sont les différentes possibilités d'aménagement du temps du travail pour respecter les 35 heures et quels seraient vos conseils pour choisir la plus adaptée à une entreprise, à une activité spécifique ?
Alors, depuis qu'on a modifié la référence hebdomadaire en France, c'est-à-dire en 1998, qu'on est passé de 39 heures à 35 heures, on a déjà ouvert la voie à des modalités différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut travailler 35 heures, point. On peut travailler 39 heures avec, du coup, une compensation, c'est-à-dire quelques jours de réduction du temps de travail qui nous sont accordés. Mais on peut aussi, parce que depuis ces dernières années, 2016, si ma mémoire est bonne, on a complètement ouvert le champ des possibilités en matière d'aménagement du temps de travail. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de sortir de la rigidité de la semaine, puisque en France, le Code du travail nous fait réfléchir en termes de semaine. C'est pour ça qu'on parle des 35 heures et des 39 heures, puisque c'est à la semaine qu'on réfléchit. Aujourd'hui, on peut complètement sortir de ça. Et on peut, par exemple, prévoir un temps de travail sur 4 semaines, quatre semaines n'étant pas en un mois en droit du travail. On peut prévoir sur un an, on peut prévoir sur 3 ans. Donc, on a la possibilité de regarder son temps sur, par exemple, l'année entière, où là, ça va nous permettre de pallier aux difficultés liées à certaines activités qui sont fortement soumises à des saisons. Donc, je ne sais pas, par exemple, toutes les activités touristiques qui sont soumises à des saisons, toutes les activités qui sont liées, par exemple, au jardinage, qui sont liées aussi à des saisons. Ça va nous permettre aussi, dans des activités médico-sociales ou, par exemple, l'aéronautique, où on a besoin d'avoir une très grande flexibilité et on a besoin de travailler jour et nuit. Là, on va avoir des possibilités de prévoir un aménagement du temps de travail sur 4 semaines pour faire varier le temps entre les semaines pleines et les semaines moins pleines, et idem sur l'année entière ou sur 3 ans. Donc, le Code du travail nous a offert pas mal de possibilités pour sortir de la rigidité qui existait jusqu'aux années 2000.
Donc, il y a une certaine flexibilité qui est offerte.
Voilà, on essaye d'offrir le plus de flexibilité possible aux entreprises pour qu'elles puissent s'y retrouver entre leurs exigences et les règles légales.
Alors, il y a une question qui vient de nous être envoyée. Peut-on avoir des heures supplémentaires structurelles annualisées? Ça revient à l'annualisation du temps de travail, me semble-t-il.
C'est ça, oui, on peut avoir ça. On peut avoir des conventions individuelles aussi au mois, où dedans on inclut des heures supplémentaires. On peut aussi sortir complètement de ce cadre et avoir, on va en parler après, hein, sur les différents types de forfaits qui existent à l'année. Donc, ça répond peu ou prou à ces heures supplémentaires structurelles.
Alors, justement, parlons maintenant annualisation du temps de travail. Comment la mettre en place et quelles sont les limites de cette annualisation du temps de travail?
Alors, pour mettre en place une annualisation du temps de travail, c'est-à-dire qu'on indique au salarié que son temps de travail, il n'est pas de 35 heures par semaine, mais qu'il va être par exemple de 1607 heures à l'année, il faut absolument un accord collectif, donc un accord de branche, un accord d'entreprise. Il faut négocier avec les partenaires sociaux. On ne peut pas le mettre en place juste individuellement avec son salarié. Cet accord, il doit répondre à un certain nombre de critères. Tout ça est prévu par le Code du travail, c'est-à-dire qu'on doit dire qui est concerné, donc qui sont les salariés concernés, quelle est la période, parce que ça peut être l'année civile, mais ça peut être 12 mois qui vont être, d'avril à avril. Il faut prévoir ce qui se passe quand un salarié ne travaille pas toute l'année, parce qu'il est entré en cours d'année ou parce qu'il part en cours d'année. Tout ça est à prévoir, mais ça, le Code du travail nous détaille bien quelles sont toutes les clauses obligatoires. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est en annualisation, on indique dans un contrat de travail à un salarié qui va faire, par exemple, 1607 heures à l'année. On peut lui indiquer une durée mensuelle virtuelle, c'est-à-dire on va lui fixer, vous ferez en moyenne, en théorie, 35 heures par semaine, mais vous êtes soumis à une variation du temps de travail, donc à la hausse ou à la baisse, pendant toute l'année. Et ça va nous permettre à nous une plus grande flexibilité, et à vous, ça va vous permettre aussi d'avoir une rémunération qui va être lissée sur l'année, indépendamment du nombre d'heures que vous faites. Toute l'année, vous allez être payé sur la base de 35 heures, même si vous ne faites que 20 heures, mais vous serez quand même payé 35. Idem, si vous faites 40 heures, vous serez payé 35. Et en fin d'année, on a un compteur qui est intégré dans le bulletin de salaire. Donc, il faut avoir un expert comptable ou un responsable paye qui gère extrêmement bien pour pouvoir qualifier les heures. Et en fin d'année, de dire, vous avez un compteur qui dépasse. Donc, vous avez fait 50 heures de plus que ce que vous avez indiqué à l'année. Ces 50 heures, elles vont être traitées en heures sup et vous donneront droit à des majorations ou des compensations en repos. En revanche, si vous avez fait 50 heures de moins, là, il va falloir que vous travaillez un peu plus les 2 ou 3 premiers mois ou qu'il y ait une retenue sur le salaire. Mais ça, c'est à prévoir dans l'accord. Donc, c'est vraiment à négocier avec les partenaires sociaux. L'intérêt de l'annualisation, c'est l'adaptabilité. Et pour un salarié, c'est d'avoir une rémunération linéaire, ce qui est dans certains secteurs d'activité, ce qui est phénoménal parce que vous allez avoir des salariés qui enfin vont avoir tous les mois le même salaire.
D'accord, très bien. Alors là, il y a une question encore sur les 39 heures. Bien, il y a une autre question encore aussi sur l'annualisation. Est-ce que c'est possible de faire une annualisation sur 49 heures hebdomadaires? Et une autre question, une entreprise qui est à 39 heures par semaine peut-elle faire une annualisation du temps de travail?
Alors, je ne suis pas super bonne en maths, mais je crois que 49 heures par semaine, ça veut dire qu'on dépasse le maximum de 48.
On est
bien
d'accord.
Et si vous faites ça multiplié par le nombre de semaines à l'année, vous explosez tous les contingents. Donc non, 49 heures, c'est possible une semaine, si la semaine d'après, vous faites moins. Mais si c'est pour faire toutes les semaines 49, ce n'est pas possible.
D'accord. Et sur les 39 heures, a priori, là, pour le coup, normalement, c'est tout à fait possible. Et à voir comment vous êtes organisé dans votre entreprise, si c'est 39 heures avec deux RTT, RTT mensuels ou 39 heures avec une RTT et c'est 4 heures supplémentaires. Enfin, il y a beaucoup d'aménagements qui sont possibles. Vous confirmez ce que je dis.
C'est pas vraiment de l'annualisation. L'annualisation, oui. C'est une modulation, en fait. Ça, si on fait 39 heures à la semaine, comme le pose c'est plus de l'individuel, en fait. Parce que l'annualisation, c'est vraiment, il faut avoir à l'esprit que c'est pour rendre l'entreprise flexible avec des périodes hautes et des périodes basses.
Oui.
Si c'est toute l'année le même temps de travail, on n'est pas dans l'annualisation en tant que telle, quoi.
Oui, vous donniez tout précédemment l'exemple du domaine touristique où effectivement, période de vacances scolaires, c'est toujours… il y a une plus forte activité, période estivale, encore pire. En revanche, en hiver, on a un petit peu plus de temps et les salariés peuvent récupérer leur temps de travail, justement.
Exactement, exactement.
Venons-en donc au forfait jour et au forfait heure. Donc, comment cela fonctionne, comment les mettre en place comment choisir entre les deux formules, quel pourrait être le critère déterminant pour préférer un forfait jour à un forfait heure?
Alors, forfait heure et forfait jour ont de cela en commun que c'est sur l'année et c'est collectif. Donc, ça doit être prévu par un accord collectif qui doit prévoir qui sont les salariés concernés. Et qui doit prévoir. Donc, les salariés concernés, il faut savoir que c'est toujours des gens qui ont une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et qui ne peuvent pas avoir un temps de travail prédéterminé. Donc, c'est vrai qu'on pense souvent aux commerciaux. Alors, on a eu tendance à mettre tous les cadres en forfait jour parce que ça concerne les cadres. Mais c'est vrai que les critères à retenir, c'est l'autonomie dans l'organisation de son temps. On doit toujours prévoir la période de référence. Forfait heure, on va avoir un forfait heure qui va être à 1607 heures, par exemple. Et les forfaits jours, la loi nous dit que c'est maximum 218 jours par an, maximum, mais ça peut être moins, avec des RTT en plus. Donc, comment choisir entre l'un ou l'autre? Je dirais que ça dépend vraiment du type de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise qui avait avant beaucoup d'heures supplémentaires et qui voudrait aujourd'hui faire un peu l'économie des heures supplémentaires tout en veillant à ce que ses salariés puissent avoir beaucoup de repos. Dans ces cas-là, on pourrait aller plus sur un forfait jour, sachant que le forfait jour, on n'a pas à comptabiliser les heures de travail et qu'on a juste un nombre de jours à faire et des demi-journées ou des journées entières de RTT. Donc, c'est plus facile à gérer pour une entreprise un forfait jour qu'un forfait heure, il me semble. Après, pour les salariés, je pense qu'un salarié préfère un forfait jour aussi, puisqu'il y a à la clé les RTT qui peuvent monter à 12 jours de RTT par an, ce qui n'est pas rien quand on ajoute au congé.
D'accord, très bien. Et justement, donc, sur ces forfaits, quels sont les avantages et les inconvénients? Et puis, je vous demanderai de préciser effectivement les deux points de vue possibles, puisque parmi nos internautes, nous avons des RH, donc qui vont avoir une vision plutôt employeur, mais nous avons également des représentants du personnel qui, eux, vont plutôt avoir une vision salariée.
Alors, pour les forfaits heures, ça concerne les cadres, mais pas que les cadres. Donc, le premier avantage, ça peut concerner des gens qui ne sont pas cadres à condition qu'ils aient une autonomie. Deuxièmement, ils ne sont pas limités par un contingent annuel d'heures supplémentaires. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Les forfaits jours, ça concerne les cadres. Donc, il faut vraiment soit on change le statut d'un salarié et on le fait, si c'est un ÉTAM, on le fait passer cadre à condition qu'il ait une véritable autonomie dans l'organisation de son temps. Et l'intérêt pour le salarié, moi je trouve que c'est vraiment d'avoir ses RTT en plus.
D'accord, et il n'y a pas d'inconvénient majeur
L'inconvénient majeur, c'est que depuis quelques années, la Cour de cassation, elle s'est penchée sur ces forfaits jours. Parce que à un moment, c'était devenu un peu pour beaucoup d'employeurs qui ne voulaient pas payer d'heures supplémentaires, hein, disons-le clairement, ou qui avaient besoin d'avoir des salariés qui travaillaient un peu plus que ce qu'ils auraient dû, on passait tout le monde en forfait jour. Comme ça, au moins, on s'affranchissait d'un point important, c'est le décompte du temps de travail. Puisqu'on n'avait plus à décompter les heures faites par le salarié, on réfléchissait en termes de nombre de jours. Donc, la Cour de cassation a dit à un moment « stop ». Je suis garante de la santé au travail, je suis garante des repos des salariés. Donc, il ne suffit pas de dire que vous êtes en forfait jour et que vous avez le droit à vos congés payés et vous avez le droit à vos RTT. Il faut aussi que l'employeur veille à la bonne articulation entre la charge de travail et la vie personnelle. Et donc, on a obligé les partenaires sociaux des branches à renégocier un volet prise en compte de la qualité de vie au travail, de la charge de travail dans leurs accords, ce qui a été fait, et on a forcé ensuite l'échelon de l'entreprise à s'intéresser réellement à la charge de travail. On s'y intéresse comment ? Avec le fameux entretien, dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation des performances ou de rencontre de son salarié, il faut absolument, pour les salariés qui sont au forfait jour, prévoir une discussion sur la charge de travail et sur la conciliation entre sa vie privée et sa vie personnelle. Si on n'a pas ça, on risque une inopposabilité de cette convention ou une inapplicabilité de cette convention de forfait jour. Et donc, quand ce forfait jour tombe, le salarié se retrouve au stade d'un salarié lambda à 35 heures. Et du coup, toutes les heures qu'il a faites au-delà de 35 heures, c'est des heures supplémentaires. Et rappelez-vous que les heures supplémentaires, on peut demander à ce qu'elles vous soient réglées en remontant 3 ans en arrière. Donc, ça peut faire mal, outre les autres condamnations qui peuvent exister. Donc, forfait jour, c'est très bien, mais il faut vraiment être très vigilant sur la charge de travail. Et un forfait jour, ça ne veut pas dire que le salarié travaille et qu'il est corvéable à merci. Aujourd'hui, on a charge de travail et on a le temps de déconnexion également.
Oui, très bien. Et effectivement, on a eu plusieurs questions sur le sujet. J'ai vu une question passer sur le chat où quelqu'un parlait d'un cadre qui était au forfait jour et qui faisait très régulièrement 57 heures par semaine. Et la personne demandait quels étaient les droits de ce salarié. Clairement, de ce que vous disiez, la convention forfait jour dans ce genre de conditions peut être dénoncée.
Oui, même si en apparence la convention, en général, même si en apparence tout va bien, c'est-à-dire qu'on a le bon accord de branche, le bon contrat de travail, etc., si on n'a pas d'entretien déjà sur la charge de travail ou si on en a un tous les 3-4 ans, déjà ça pose un problème et ça autorise le salarié à estimer que l'employeur ne respecte pas le code du travail ni la jurisprudence et à réclamer le paiement d'heures sup. Toute la difficulté, évidemment, c'est de déterminer quelles sont ces heures supplémentaires, puisque quand on est au forfait jour, on n'a pas d'horaire assigné. Donc, à partir de quel moment on considère qu'on a dépassé les 7 heures par jour et comment on le prouve ? Mais en tout cas, c'est un risque important pour l'employeur hein, s'il ne respecte pas les exigences jurisprudentielles.
D'accord, très bien. Alors, j'avais vu d'autres questions. Donc, il y en avait une. Il y a quelqu'un qui demandait la différence entre l'annualisation du temps de travail et les aménagements du temps de travail. L'annualisation du temps de travail est une forme d'aménagement du temps de travail. Il n'y a pas de différence. C'est, ça fait partie des aménagements du temps de travail. Donc, que se passe-t-il si le cadre travaille plus que le nombre de jours défini par ces conventions forfait jour ? On vient d'y répondre. Alors, il y a Shirley qui demande à ce qu'on rappelle le calcul des absences dans le calcul des 218 jours sur l'année. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen de préciser un petit peu, mais j'imagine qu'on parle d'une convention forfait jour, un salarié qui doit effectuer 218 jours sur l'année. Et s'il est en congé maladie, c'est par rapport aux maladies ou aux congés.
Tout ça doit être prévu dans l'accord, hein, soit l'accord de branche, soit l'accord d'entreprise, comment on qualifie les absences et quel type d'absence. Donc, il y a des absences, toutes les absences qui constituent du temps de travail effectif, ça rentre dans le forfait ou dans l'annualisation, parce que l'idée est la même. Si on est sur des absences injustifiées, évidemment, non. Et après, il y a des prévisions qui sont… Enfin, il faut aller dans chacune de ces accords pour vérifier ce qui a été prévu par les partenaires.
Et effectivement, on va parler des accords juste après, et on va voir qu'on peut négocier pas mal de choses dans ces accords. Alors, concernant le temps de travail, l'employeur peut prendre aussi des décisions unilatérales. Quelles sont-elles ?
La première décision qu'il peut prendre, c'est sur les horaires de travail. Ça, si on est sur un horaire collectif, il peut changer les horaires de travail. Il peut aussi changer même des horaires individuels à condition de respecter des délais pour informer les salariés. Ça, c'est tout à fait possible. Après, aujourd'hui, on a la possibilité en fait de négocier dans l'entreprise de plusieurs manières. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, il fallait avoir un délégué syndical pour pouvoir négocier des accords. Aujourd'hui, on peut négocier soit avec un délégué syndical, soit avec un salarié élu du CSE qui est mandaté ou pas mandaté, soit avec un salarié tout court, soit l'employeur, il peut aussi imposer dans certains types d'activités des décisions unilatérales. Donc, il va prendre un accord, même si ça ne s'appellera pas un accord, et il peut traiter des pauses, du taux de majoration, de l'aménagement du temps de travail en le sortant du mois et en le mettant sur 4 semaines. Tout ça, il peut le faire aussi aujourd'hui.
D'accord, très bien. Et donc, venons-en aux accords que vous commencez à aborder. Que peut-on négocier dans le cadre d'un accord sur le temps de travail ? Et pour ce type d'accord, et ça reprend pas mal de questions qui sont passées soit sur le chat, soit dans l'onglet questions, dans ce type d'accord, est-il possible de déroger même défavorablement aux accords de branche, donc aux accords liés à la convention collective ?
Alors aujourd'hui, oui, on a un espèce de renversement en fait d'un principe. En droit du travail, on a toujours eu un principe qui était l'ordre public social, c'est-à-dire ce qui est le plus favorable aux salariés doit être appliqué. Voilà. Aujourd'hui, on est sur un autre principe qui est un principe de proximité, puisque la hiérarchie des normes a été modifiée sous l'empire du gouvernement Macron, où on a distingué trois blocs de thèmes, de thématiques du droit du travail, et dans ces trois blocs, on peut ou pas négocier en respectant les accords de branche sur certains thèmes, en s'affranchissant des accords de branche et en négociant sur ce que l'on veut. Donc aujourd'hui, le chef d'entreprise a une liberté beaucoup plus large que ce qu'il avait avant. Sa liberté va jusqu'à déroger, effectivement, à certains points d'un accord de branche, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, aujourd'hui, la négociation permet de faire ça. Il y a un autre point, c'est qu'on a les accords de performance collective qui ont été créés aussi récemment. Et ces accords-là, sous couvert d'un nom de performance collective, hein, puisque le but est de donner du souffle à une entreprise, de lui permettre d'être plus performante, dans ce type d'accord, l'employeur peut revoir aussi le temps de travail de manière un peu plus large et ça s'impose individuellement. Donc, ça peut aller à l'encontre de dispositions du contrat de travail qui étaient plus favorables. Et ça, c'est une vraie révolution en droit du travail.
Donc, ça, c'est né avec les ordonnances Macron et les lois El Khomri, c'est bien ça ?
Exactement.
Très bien. Alors, dans le cadre de cet accord, peut-on également appliquer des dispositions différentes selon les salariés, mettons par service, dire que le service commercial appliquera les 35 heures strictes pour des convenances de planning, par exemple, et dire que dans un autre service qui a des exigences de planning moins fortes, les gens auront 37h30 et une RTT mensuelle.
Oui, bien sûr. Ça, c'est tout à fait possible, mais vous avez raison de préciser que c'est par service, parce que la règle, là, pour le coup, cette règle n'a pas été modifiée, c'est que on peut négocier ce que l'on veut, on peut prévoir des différences, à condition qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité entre salariés identiques et qu'il n'y ait pas de discrimination. Donc, si vous avez deux salariés qui sont dans une situation identique, qui occupent le même poste, évidemment qu'ils doivent être traités de la même manière en termes de temps de travail, j'entends. En revanche, si ces deux salariés ne font pas le même job et qui sont chacun dans des services différents, chaque service peut répondre à des considérations différentes. Elles vont avoir des besoins différents, une organisation, une façon de fonctionner différente. Un service d'accueil au public qui va avoir une amplitude qui va être peut-être plus large qu'un service qui va être dédié, je ne sais pas, à plus une technique, un assemblage, par exemple, de pièces où ça va être à des heures plus restreintes. Voilà, donc en fonction des nécessités de l'entreprise, du type d'organisation et de chaque service, peut avoir un aménagement du temps de travail qui lui est propre et qui répond à ses spécificités.
Alors, une dernière question sur les accords temps de travail. Un accord sur le temps de travail doit-il être rédigé d'un seul bloc ou peut-on rédiger des avenants par thématique ?
Alors, si vous aimez beaucoup la négociation, vous pouvez faire en plusieurs fois, comme ça vous revoyez vos délégués syndicaux très souvent. En général, on fait en une fois, mais on a parfaitement le droit de revenir sur un accord, par exemple, en utilisant ce que le Code du travail nous octroie, c'est-à-dire la révision. Donc, il faut vérifier quelles sont les conditions de révision d'un accord et les utiliser. Ce n'est pas très compliqué, hein, ça paraît compliqué, mais ce n'est pas si compliqué. Mais en tout cas, on peut revenir sur une thématique ou sur un ou deux points particuliers et renégocier et réviser.
Oui, et donc bien négocier au départ les conditions de révision de l'accord, qu'elles soient écrites noir sur blanc dans l'accord, c'est le prérequis.
Exactement.
Alors, nous approchons de la fin de cette webconférence. Alors, en guise de conclusion, pour vous, s'il y avait cinq idées fortes, cinq éléments essentiels à retenir sur le temps de travail, quel serait-il ?
Alors, ce serait que le temps de travail, il faut toujours faire attention au maximum autorisé par la loi, donc les durées maximum, et en jours, et en heures, et en semaine, pardon, en semaine et en année. Deuxièmement, se dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité quand même d'être un peu inventif, imaginatif, créatif, avec un support qui est le Code du travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus comme en 1980 où on était à 39 ou 40 heures et point. On peut faire autre chose. On peut adapter à chaque entreprise un aménagement différent, à chaque service un aménagement différent. Ne pas oublier qu'on peut négocier sur des bases qui étaient impossibles avant. Par exemple, le taux de majoration des heures supplémentaires, on n'est plus pas obligé de rester à 25 et 50%. Hein. On peut descendre jusqu'à 10 et 10. On peut octroyer des RTT. Donc, chaque partie peut trouver vraiment son bien-être au travail au travers d'un aménagement qui respecte et la charge de travail et la compétitivité de l'entreprise.
D'accord, très bien. Merci, merci beaucoup. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette webconférence. J'espère que ce format vous aura plu et que vous avez obtenu réponse à bon nombre de vos questions. Et je vous invite vivement à lire les dossiers que Marine a pu vous poster de temps à autre sur le chat. Et n'hésitez pas donc à contacter Maître Félicie pour tout conseil juridique supplémentaire. Je vous redonne ses coordonnées à l'écran.
Merci beaucoup.
Alors, afin de m'assurer de votre satisfaction et d'améliorer nos futures webconférences, je souhaiterais que vous me donniez votre avis sur celle-ci. Là encore, Marine va vous transmettre par chat le lien qui vous permettra de nous donner votre avis sur la webconférence. Ça compte vraiment énormément pour nous. Notre but est vraiment de vous aider dans votre quotidien. Donc, n'hésitez pas à nous faire part d'améliorations possibles. Alors, si vous avez encore des questions ou même si d'ici quelques jours une question vous venait à l'esprit, comme je vous l'avais annoncé au début de la webconférence, vous avez la possibilité de poser votre première question gratuitement à nos juristes. Là encore, Marine vous transmet le lien par chat. Alors, pour tous les élus de CSE et les délégués syndicaux ou les représentants du personnel au sens large, j'anime un groupe privé sur Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je suis moi-même déléguée syndicale et secrétaire de CSE. J'ai voulu créer une communauté où nous pourrions échanger autour de nos problématiques d'élus qui sont nombreuses. Donc, c'est un groupe très bienveillant et qui attend votre inscription. Donc, j'espère que les personnes concernées viendront s'inscrire à l'issue de cette webconférence. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos newsletters qui vous permettent de recevoir de l'actualité juridique toutes les semaines et qui vous permettent aussi d'être informés de nos futures webconférences, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, c'est le grand moment de Marine qui transmet énormément de liens. Là encore, Marine vous transmet le lien pour vous inscrire à nos newsletter que vous recevrez donc de manière hebdomadaire. Dernière annonce, je vous donne rendez-vous donc pour notre prochaine webconférence qui aura lieu le 24 mai à 14h toujours. Donc nous aborderons un thème différent, plutôt axé sur le droit des affaires et le droit de la consommation, puisque nous allons aborder les conditions générales d'utilisation, les conditions générales de vente et les mentions légales. Donc cette webconférence s'adressera plus aux chefs d'entreprise, aux responsables administratifs et financiers ou aux directeurs administratifs et financiers. Elle sera animée par Yvan Belliga, avocat au barreau de Bordeaux, qui animera donc cette webconférence avec moi. Et je serai ravie de vous y retrouver donc le 24 mai à 14h. Merci encore à vous, Maître Félicie, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi. Je vous dis à très bientôt,
merci,
j'espère.
Merci, à très bientôt. Au revoir.
Je vous remercie tous d'être venus encore aussi nombreux à cette webconférence. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Au revoir.